France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec Bernard Lavillier ce soir. Et oui, vous avez bien entendu, Bernard Lavillier est à nos côtés et c'est peu dire qu'on est en joie, trois quarts d'heure avec sa voix. Il est des fins janvier qui ressemblent à des étés, alors profitons-en. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut demander à quelqu'un qui chante des causes perdues sur des musiques tropicales de commenter l'actualité. C'est pourtant ce qu'il fera ce soir. Et cette actualité très sociale devrait lui parler.
C'est toujours le même salaire, 1300 euros par mois. On ne sort plus, on reste à la maison. L'essence ou le gasoil, c'est pareil. Moi, j'ai 15 km par jour. C'est dur à la fin du mois, c'est très très dur.
On partira aussi en voyage en Argentine, à Saint-Étienne, là où nous emmène son dernier album, Sous un soleil énorme. Lui sera en tournée à partir du mois de février. La pandémie devrait lui laisser un peu de répit. Au programme également, la chronique de Vincent Martini, de l'hebdo Le 1. Ce soir, l'impossible union de la gauche. À 19h, le journal de Frédéric Barrère. À 19h20, au téléphone sonne les dangers du gaz hilarant. On verra pourquoi avec nos invités, alors que les médecins voient de plus en plus souvent arriver aux urgences de jeunes consommateurs, certains en partie paralysés. On en parle au 01 45 24 7000. Merci à Irène Menahem qui m'a aidé à préparer cette émission, à Juliette Gou qui la réalise, à Arnaud Caillé, Ludovic Asselot, Philippe Duclos qui sont en régie. Merci aussi à nos standardistes qui attendent vos appels pour le téléphone sonne et à Magdalena Hervada qui, elle, lit vos mails.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir Bernard Lavillier.
Bonsoir.
Un immense merci d'être avec nous ce soir. On peut dire que vous nous gâtez quand même à France Inter. Il y a eu en novembre la présentation de l'album lors d'une soirée spéciale. Ensuite, il y a eu ce concert que vous nous avez offert le 17 décembre ici à la Maison de la Radio. Puis ce soir, cerise sur le gâteau, vous êtes avec nous pour parler musique, mais pas que musique. On va parler du moment que l'on traverse. Et puis alors, vous êtes en train de vous préparer pour la tournée.
Oui, ouais, absolument. Je suis avec mes musiciens. Exactement. Et donc, le plus compliqué, c'est de faire une setlist entre ce que les gens ont envie d'entendre, les trucs impossibles à ignorer.
Voilà, tout ce qui vous avait chanté depuis des lustres et qu'on veut toujours entendre. On va dire ça comme
c'est
ça.
C'est ça, sinon ils vont faire la gueule. Ou alors des nouveaux trucs qu'ils connaissent pas du tout. Et puis, dans l'intermédiaire, il y a des chansons un peu étranges qui ne sont que des chansons célèbres en scène, qui ne passera jamais à la radio, qui n'ont rien à voir. Au fond, c'est les 3-8, c'est-à-dire 8 chansons indispensables, genre On the Road Again, vous voyez. 5 ou 6 chansons du nouvel album, si elles sont scéniques, faut y arriver. Et sans doute, 8 autres comme des chansons comme La Grande Marée, qui n'est jamais passée vraiment à la radio, mais que tout le public connaît. Donc je vais essayer de jongler avec le nouveau, la mémoire et la mer, d'ailleurs.
C'est toujours un grand bonheur de partir en tournée.
Ouais, c'est-à-dire que la préparation est très intéressante. Il faut pas rentrer dans la routine, là, pour le coup. C'est pour cette raison que je prépare beaucoup plus de chansons, excusez-moi, que j'en ai besoin. Comme ça, je peux régulièrement changer au fil de mon humeur. Parce qu'au bout d'un moment, le même set pendant un an, je crois pas que je tiendrai le coup. Donc, ça change sans arrêt. On a des réserves. J'ai 3-4 chansons tout à fait étranges que je peux chanter. Je peux en chanter d'autres parmi les 8 connues. J'en ai quelques-unes en plus. Donc, je peux changer parce que les musiciens assez polyinstrumentistes qui m'accompagnent sont capables de le faire.
Alors, la chance que vous avez dans votre malheur, parce qu'on va en parler, ce disque a été perturbé, la fabrication, par la pandémie, c'est que là, a priori, ça s'arrange quand même. Et que pour cette tournée, un certain nombre de restrictions sont levées, vous aurez droit à un public qui va même pouvoir se lever devant vous, Bernard Lavillier. C'est de la chance, ça.
Moi, il y a un vieux proverbe que je garde toujours. Tout s'arrange toujours, même mal.
Donc voilà, ils vont pouvoir se lever. On croise les doigts pour que ça continue, parce que c'est vrai que on l'a dit, la réalisation a été perturbée. Évidemment, la grande affaire de ce disque, c'est ce voyage d'abord qu'il y a eu en Argentine.
Bien sûr. Oui.
Voilà. Et ensuite le retour, en plein confinement.
C'est-à-dire qu'au départ, moi, il faut que je bouge, et donc il faut que j'aille marcher dans une ville inconnue, surveillée par personne, et après je prends l'attention, je rencontre des musiciens, des gens tout à fait différents les uns des autres, d'ailleurs des peintres et des voyous du Barrio 31, donc j'ai l'habitude de rôder dans ce genre de ville, et ça m'a donné envie au bout de quelques jours d'écrire Le Piéton de Buenos Aires, qui me fait penser d'ailleurs à un poète qui avait écrit Le Piéton de Paris. Parce que c'est à taille humaine qu'on visite une ville, aussi grande soit-elle. Vous changez de trottoir, vous passez devant des échoppes, vous entendez parler d'autres langues. C'est comme ça qu'on connaît une ville, c'est pas en taxi, hein, ça m'étonnerait.
Alors, il y a le piéton de Buenos Aires, mais il y a aussi les porteños sont fatigués.
Ouais.
Fatigués les porteros, fatigués toujours de l'avoir dans l'os. Inflation, chômage et des promesses, pays du futur, mais rien ne presse. Traîne un peu les pieds dans l'inflation, qui bat des records, nous dit-on. Ils sont très lucides et cultivés, mais les porteros sont fatigués. Alors Chabon, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés, mais les porteños sont fatigués. Mais les porteños sont fatigués.
Fatigués par quoi, Bernard Lavilliers? La crise économique essentiellement.
Par le pouvoir, par les généraux d'avant, par les hommes politiques totalement corrompus et qui racontent n'importe quoi en permanence, par une espèce de caste qui tient le coup. Et ils sont fatigués, pratiquement, j'ai compris, les plus intelligents. C'est pour cette raison que je dis, ils sont chaleureux, cultivés, mais les porteños sont fatigués. C'est-à-dire, ils disent, mais à quoi ça sert? Je dis, il faut agir pour le principe. C'est mon truc. Quand on dit, ça fait 40 ans que tu chantes la révolution, et c'est encore pire qu'avant, je dis, alors, c'est un principe. Donc, c'est pour le principe. Alors, évidemment, je m'attendais pas à ce que ça arrive, hein, comme disait Aragon, les lendemains qui chantent. J'ai ce côté cynique, mais en même temps, il y a un côté enfantin qui fait que je continue à chanter les mains d'or.
En tout cas, vous continuez toujours à bourlinguer, c'est ce que vous nous
Absolument.
Dites. Et curieusement, vous ne connaissiez pas l'Argentine alors que vous avez sillonné l'Amérique du Sud, l'Amérique latine dans tous les sens.
Et le Vietnam, etc. etc. Mais je voulais me garder ça à un moment donné. C'est-à-dire que...
Pour savourer.
Pour d'abord rester, prendre la dimension des Argentins qui n'ont rien à voir avec les Colombiens ni avec les Brésiliens. Parce que je les ai rencontrés à Rio, je les ai rencontrés à Bogota, à New York, à Paris. Les Argentins, c'est pas tout à fait la même chose que les autres de l'Amérique latine, hein. Et d'ailleurs, on dit, un Argentin est un Italien qui parle espagnol, s'habille comme un Anglais, et aimerait bien être français. Voilà. Donc, en gros, vous voyez, c'est quand même un peu complexe.
Alors, il y a eu l'Argentine, vous êtes revenu et c'est là que la pandémie est arrivée.
Voilà.
Vous avez donc dû travailler à distance. Alors, il y a une chanson, là aussi, vous me pardonnez, mais ce ne sera qu'un extrait, qui semble dire que tout n'a pas été simple pendant la période du confinement. Cette chanson, c'est Toi et moi.
Ah ouais.
Ah, on n'a pas pris cette chanson. Alors, je vais juste la citer parce que je pense que je l'ai oubliée. Bernard Lavilliers, une année impossible que cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. Il y a ceux qui rêvaient de dictature militaire, ces ouais. connards amnésiques m'ont foutu en colère. À qui faites-vous référence?
C'est-à-dire, j'ai entendu dire ça pendant que j'étais coincé chez moi en garde à vue. Il nous faut des militaires, une dictature. Ils ne savent pas du tout ce que c'est, hein, je vous assure. Donc, les gens qui imaginent qu'il faut un homme fort, une dictature, et que la démocratie, c'est ce qui m'inquiète. C'est-à-dire que la démocratie, ça devient tellement banale, elle est tellement présente au fond, que tout le monde s'en fout. Donc, quand on sera sous dictature militaire, moi je serai mort. Hein. Mais vous verrez, c'est pas tout à fait la même chose.
Des gueules de prophètes jusqu'alors inconnues vrillent ton cerveau.
Ah oui,
c'est
tous les spécialistes qui y a sur...
D'accord.
Qui a eu énormément de spécialistes, qui ont raconté n'importe quoi. Et alors évidemment, il y a tous les gens qui ont le sens du complot, qui allaient dire « Ouais, mais ils sont en train de nous injecter la 5G ». J'ai entendu ça aussi, ça c'est surprenant. Mais c'est pas grave, hein. Au niveau de la connerie, je pense qu'on était très forts.
Alors, pendant les périodes où les voyages étaient impossibles, je crois que vous êtes réfugié dans le sud de la France,
ouais.
en Provence.
J'ai pu voyager, j'avais avec un Ausweis, hein, comme à l'époque. Donc, j'avais Universal, etc. J'allais voir des amis. Donc, j'ai pu enregistrer quand même au mois d'avril, c'est-à-dire un mois après le début, où il y avait le couvre-feu à 9h du soir, avec Eric Cantona, Isia, Hervé, Gaëtan Roussel, la chanson de Bob Dylan qui a tué David Moore.
Voilà, vous avez composé, vous avez lu, vous avez écrit. Ouais. Et moi, j'aimerais vous demander, Bernard Lavilliers, comment vous procédez quand vous écrivez une chanson? Est-ce que c'est d'abord un poème? C'est d'abord un texte que vous écrivez ou est-ce que la musique est là?
J'ai mes fameux carnets de notes minuscules dans mes poches comme un flic et je note des phrases. Alors par exemple, Buenos Aires, c'est un port qui fait dos à la mer, bizarrement. Pas comme Marseille, on voit la mer de partout. Et alors Buenos Aires, le Rio de la Plata. mais l'Atlantique est plus loin quand même, hein. Mais c'est un port énorme. Eh ben, on n'a pas l'impression d'être dans un port à Buenos Aires, dans cette ville d'eau à la mer, qui rêve encore. Oui, c'est-à-dire que je dis, on sent que l'Italie de partout, puisque beaucoup d'Italiens immigrés, c'est la ville où il y a le plus de psychanalystes au mètre carré. Il faut le savoir. Je me demande pourquoi Woody Allen ne vit pas à Buenos Aires. Et après, je parle donc du comte de Lautréamont, qui lui était né en face, en Uruguay. Et je dis les chants du Mal d'Or. J'ai mélangé tout ça pour donner quelques références sur la littérature et les artistes argentins qui sont quand même très forts. Je dirais ça.
Vous parlez plusieurs langues, Bernard ouais. Lavilliers. Vous êtes très souvent à l'étranger. Mais les chansons, c'est en français.
Ah oui.
Toujours.
Avec quelques mots, des fois. Hein.
Oui, il y a quelques mots par-ci, par-là. Mais pourquoi? Parce que c'est d'abord... J'en reviens à la poésie. Parce que c'est d'abord cette langue. C'est d'abord de la poésie, c'est en français.
Oui, mais je parle une langue portoniole, anglais, vous voyez, un genre de truc. J'ai appris en Jamaïque. Donc, aucun anglais ne comprend. À part les Jamaïcains, ils comprennent très bien. Et les Américains. Mais je parle pas assez bien l'espagnol pour écrire un poème. Vous voyez? Comme Luis Borges. Jamais. Donc, de temps en temps, je dis des trucs en espagnol ou en anglais. Comme « I and I love the island in the sun ». Bon. Mais finalement, j'arrive à faire sonner le français un peu comme une langue étrangère, parfois. Et moi, j'aime bien le français en même temps. Vous savez, la poésie française,
oui,
c'est quand même
ça.
Pas n'importe quoi. C'est beaucoup. Hein. Ouais. On n'est pas les seuls, mais c'est quand même très intéressant.
Et le titre phare de cet album, Le cœur du monde, c'est un petit peu apocalyptique. Ça renvoie à ce soleil.
Une inquiétude. Hein, c'est une inquiétude, c'est tout. Je dis, si la démocratie peut tomber en 10 heures, j'y vais fort. Mais bon, j'ai connu des pays où ça tombait en 10 heures, bizarrement. Et d'ailleurs, en ce moment, au Burkina Faso, à mon avis, est-ce qu'il n'y a jamais eu de la démocratie? Je ne suis pas du tout sûr. Mais c'est-à-dire qu'à la fois, ce soleil énorme, je trouve ça très beau. Sous un soleil...
Ça veut tout dire.
Quand nos amours, voilà, quand nos amours n'auront plus cours, sous ce soleil énorme... On dirait une chanson d'amour, hein.
Merci.
Si vous écoutez pas le reste.
Mais ça parle beaucoup d'amour, hein, de toute façon, cet album.
J'aime bien.
Dans plein de chansons, on a compris que c'est très, très important. On va passer, Bernard Lavilliers, à l'actualité de la semaine à présent, grâce à ce mix qui a été mis en onde par François Audouin. À la une cette semaine, la présidentielle qui se rapproche, le pass vaccinal, désormais en vigueur, puis le grand retour des questions sociales et notamment des salaires.
On en a marre, on nous retire les primes. C'est toujours le même salaire, 1300 euros par mois. On sort plus, hein, on reste à la maison. Hein. L'essence ou le gasoil, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai 15 km par jour. Je vois qu'hier, il était à 1,72 de gasoil. C'est dur à la fin du mois, c'est très très dur.
Le grand retour de la question sociale cette semaine, avec à la une le coût de la vie.
Le niveau des prix observé depuis quelques jours est tel que nous devons apporter une réponse à ceux de nos concitoyens qui roulent beaucoup.
Une réponse pour ceux qui roulent beaucoup, dit Jean Castex, mais pas de baisse de la TVA sur l'essence. Alors pour l'opposition, le compte n'y est pas. La socialiste Valérie Rabault.
Vous ne parlez qu'aux Français qui sont imposables. Parce que pour passer aux frais réels, il faut être imposable, monsieur le Premier ministre.
L'opposition s'oppose quant au président de la République, bientôt candidat. Sur ce dossier, il préfère rester en retrait.
La question va se poser pour le gouvernement de savoir s'il faut faire davantage.
Et il n'y a pas que l'essence. Il y a aussi l'électricité, la nourriture. Bref, tout augmente. Alors Jean-Luc Mélenchon fait du Mélenchon.
Quand 12 millions de personnes en France ont froid, quand 8 millions de personnes vont à l'aide alimentaire, vous voyez comme moi que ça ne peut pas durer.
AXA, BNP, Société Générale.
Voilà la liste des banques et assurances que le candidat communiste Fabien Roussel veut nationaliser.
Il avait raison quand il disait « si on veut taper sur les banques, il faut tous aller chercher son billet ». Il avait raison.
Le pouvoir d'achat, priorité numéro un des Français et des candidats à la présidentielle, mais pas pour Éric Zemmour.
Immigration, c'est la mère de toutes les batailles. C'est pour ça que nous avons une délinquance aussi explosive, c'est à cause de l'immigration.
C'est-à-dire qu'il y a des immigrés qui sont délinquants dans ce...
Oui, en tout cas des immigrés ou des enfants d'immigrés.
Éric Zemmour lui a déjà été condamné à plusieurs reprises par la justice. À la une, sinon, cette semaine, le scandale Orpea et les révélations sur le triste sort des résidents des EHPAD, de ce groupe privé très lucratif, prêt à tout pour faire des économies.
Il y avait des consignes claires de la part de la direction générale. 3 changes par jour, ça pouvait descendre à moins.
Vrai pour les couches, vrai aussi pour la nourriture.
Un gâteau, un pépito, un à 4 heures.
Le directeur du groupe s'en défend.
Ce qui est démontré de l'entreprise, comme un système est absolument faux.
J'ai demandé à la ministre déléguée en charge de l'autonomie de saisir immédiatement le groupe, de manière à ce que des réponses puissent être apportées.
Au-delà de l'enquête, la défenseure des droits Claire Hédon rappelle que d'une manière générale, la bientraitance est une question de moyens et que faute de bras, ça continuera.
Vous ne pourrez pas avoir des personnels bientraitants s'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour s'occuper des personnes.
Et ce qui est vrai dans les EHPAD l'est aussi dans les hôpitaux où le Covid n'a pas encore disparu, loin de là. Bientôt la fin des restrictions dans les bars, mais les restaurateurs ne sont pas chauds à l'idée de contrôler l'identité des clients.
Nous, on est commerçants, on est là pour accueillir les gens avec le sourire, on est là pour qu'ils passent un bon moment. Enfin, si on avait voulu faire du contrôle d'identité, on ne se ferait pas ce métier-là, on serait dans les forces de l'ordre.
Cette semaine, le pass vaccinal a remplacé le pass sanitaire. Parole de réfractaire.
J'ai décidé de ne plus aller au ciné, de ne plus aller au théâtre. J'aime bien la culture, mais je ne fais pas parce que c'est du chantage en fait.
Ce serait quand même dommage de se priver de concerts. Et un grand merci à François Audouin. Une semaine en France en compagnie de Bernard Lavillier ce soir, pour ceux qui nous rejoignent. Et oui, rien que ça, rien que pour vous, chers auditeurs, y compris pour commenter l'actualité de la semaine. Elle n'est pas belle, la vie ? Est-ce que vous avez un sujet qui a retenu votre attention, Bernard Lavillier?
Oui, les salaires surtout, c'est ça qui est intéressant.
Le retour des luttes sociales, c'est ça qui vous interpelle?
Il y a encore des classes sociales, je suis désolé, je ne suis pas à l'ancienne, je suis juste lucide. Il y a encore beaucoup de différences, je veux dire. Il y a des castes même. Donc, j'avais écrit dans une chanson qui s'appelait « Les troisièmes couteaux », « Ils ne font rien, ils se situent ». En réalité, c'est ce qu'ils font, ils se situent. On est dans l'élection présidentielle, on lâche un peu du grain. Et ensuite, votez pour moi et Beautiful Day.
Alors, merci mille fois de faire la transition. On va écouter un extrait de Beautiful Days, une chanson qui est clairement politique. On écoute.
Jamais élu, toujours choisi. C'est le règne des petits marquis. Un prof d'histoire décapité, du corona chez les comptables, un couvre-feu, nouveau portable. Une révolution islamiste, des coups tordus, des coups de trique. Ils nous agacent, ils se déminent, on se prélasse, ils nous confinent. Beautiful days, beautiful days, beautiful.
Jamais élu, toujours choisi, c'est le règne des petits marquis. À qui faites-vous référence, Bernard Lavillier?
Ah ben ceux-là, hein.
Ceux qui
sortent du pressing, ouais. Nickel.
Et pourtant, au début, vous l'aimiez bien, hein, Emmanuel Macron.
J'ai trouvé qu'il était assez intelligent, déjà, pour jamais avoir été élu et ni directement président de la République. Il faut quand même le faire. Il y a du hold-up, c'est pour ça que ça me plaisait
vous
assez.
Vous disiez qu'il n'y a pas d'alternative à l'époque. Finalement, vous en êtes un peu revenu.
C'est pas ça. Après, il n'y a pas que lui dans tout ça. Enfin, je ne suis pas en train de le défendre non plus. Il est suffisamment arrogant pour se défendre tout seul. Il y a tous les autres. Comme je dis, ça grouille de petits marquis, jamais élu, toujours choisi. Il y a de la combine. Hein, de la combine, il y a des mafieux, il y a tout genre. Et alors pour le reste, évidemment, c'est pas très brillant. C'est un peu au ras des pâquerettes, la campagne. Vous voyez.
Est-ce que c'est vrai que en 2017, c'était la première fois que vous votiez à la présidentielle? J'ai vu ça quelque part, ça m'a
non,
tellement étonné.
Non, ça m'arrive de voter de temps
quand
en
même,
temps.
Quand même, de temps en temps.
J'avais voté Mélenchon, il me semble.
Et là aussi, vous en êtes revenu?
Ce même pas ça, je connais bien. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose dans cette histoire. Donc je faisais un clin d'œil sur Fabien Roussel qui ressemble étrangement à Georges Marchais. Alors évidemment, c'est très vintage, hein. Le camembert, le beefsteak et le gros rouge. C'est pas tellement, il y a un programme politique assez étrange. Finalement, mais pourquoi pas dans cette histoire, le plus drôle, c'est lui pour l'instant. C'est certainement pas Eric Zemmour. Et même Mélenchon, le côté tribun qu'il a, c'est formidable. Hein. Mais alors après, il y a un côté pudeur de gazelle dans tout ça qui me surprend.
Pudeur de gazelle, comme vous y allez. Évidemment,
c'est lui qui l'a dit.
C'est lui qui l'a dit. Il a dit ça lors de la dernière campagne. Sur la question sociale, encore un mot, Bernard Lavillier. Vous chantez toujours dans les usines?
Ah ben, dès qu'on
vous appelle.
C'est-à-dire quand les ouvriers occupent l'usine, hein, je ne sens pas que dans ce cas-là. C'est-à-dire c'est un moment où, effectivement, quand je me déplace, ça fait faire venir la presse, et on peut attirer l'attention sur, disons, le naufrage d'une usine qui emploie 400, 500, 1000 ouvriers. Et ça sert toujours à attirer l'attention, c'est pour cette raison que je le fais. Et puis aussi pour remonter le moral. Parce que des fois, ils sont un peu bas. Voilà.
Et on va voir qu'effectivement, ça porte ses fruits. C'était le 18 octobre 2012. C'est un exemple, hein, parmi beaucoup d'autres. Vous étiez allé à Florange voir les sidérurgistes.
Tu ne connais pas, mais t'imagines. C'est vraiment magnifique, une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris. C'est plein d'étincelles, surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes.
Ça me fait quelque chose, parce qu'il parle souvent de la vallée de la Fench, de la sidérurgie, où il a déjà travaillé, enfin... Il est passé dans le coin, déjà il connaît, ça fait plusieurs fois qu'il nous a soutenus. Il nous a soutenus à Gandrange aussi, moi je suis un ancien de Gandrange. Donc ça fait d'autant plus plaisir de le revoir ici sur site.
Ça fait chaud au cœur, quoi. On voit que Bernard Lavilliers nous soutient, il nous a soutenus à Ucorange, il nous a soutenus pour la marche à Paris, il nous soutient aujourd'hui à Florange, et ça fait chaud au cœur, quoi. Je veux dire, c'est rare qu'on voit des artistes qui nous soutiennent comme ça, quoi.
Vous voyez, ils sont tout contents, hein, Bernard Lavilliers.
Oui, mais contrairement aux politiques, moi je peux parler de ce que je connais. J'ai travaillé dans le métal, j'ai travaillé dans la mine noire, donc je connais. Je veux dire, si je m'associe à eux pour défendre leur emploi, et les mains d'or, quoi.
Eh ben, parce que, attention, justement, allez.
C'est quand même des mains d'or, c'est eux qui fabriquent pour nous.
On ne peut pas nous faire autrement.
Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or, j'ai passé.
Vous voyez, c'est comme au concert, hein, il y a les chansons qu'on vous réclame. Bah, nous, c'est la même chose.
Celle-là, ils la chantent eux-mêmes. Ils ont fait même une version caricaturale. Je me souviens plus du texte, mais extrêmement drôle. Ce sont les ouvriers qui l'ont fait à ma place. Et non, mais je leur ai offert le texte parce que ma femme étant graphiste, elle sait très très bien mettre les poèmes en affiche. Et c'était très émouvant, cette histoire. Très émouvant.
Vous pensiez qu'elle allait devenir aussi célèbre, cette chanson, Bernard Lavilliers ?
Alors ça, pas du tout. En attendant, je parle de gens d'une certaine génération qui se retrouvent gros gens comme devant, 50 ans, sur un chômage de longue durée, qui n'ont pas fini de payer leur maison, qui n'ont pas fini de payer les études de leurs enfants, et qui tournent en rond, et souvent ils passent par le divorce, parce que tout à coup, ils sont trop tendus. Enfin, il y a une accumulation de malheurs. C'est ce que j'ai voulu chanter. Alors quand on lit le texte, c'est pire, parce que la musique adoucit le texte. Quand, par exemple, Édouard Martin l'a lu...
Ouf. Même vous étiez ému par votre propre texte.
Oui, mais il ne m'appartient plus.
Bernard Lavilliers, ça fait 40 ans que les usines ferment, qu'il y a une désindustrialisation, qu'il y a le chômage. Est-il vrai que vous avez dit un jour à François Mitterrand, je chante les causes perdues sur des musiques tropicales?
Exact, oui. C'est une boutade, hein, parce qu'il me disait, vous faites quoi là? Je lui ai dit, je chante des causes perdues sur des musiques tropicales, mon prince. Il m'a dit, gardez le titre, c'est très amusant.
Et vous voyez que finalement, ça continue. C'est toujours la même histoire. Encore un tout petit mot de politique, Bernard Lavilliers, si je peux me permettre. Vous parliez tout à l'heure des dictatures dans d'autres pays, mais les sondages mettent l'extrême droite à 30% aujourd'hui en France. Vous qui avez beaucoup bourlingué, vous comprenez ce qui se passe ici ?
Alors, les sondages, c'est une chose...
Oui, on ne va pas non plus les prendre pour...
Vincent Bolloré passe son temps à dire que la France est à droite, donc les gens finissent par le croire. Mais je ne sais pas. En réalité, il y a toujours un lampiste. Hein. C'est la faute des immigrés, comme dirait Zemmour. C'est la faute des chômeurs. Ça peut être la faute des retraités. Je ne sais pas. Je veux dire, on a vendu les bijoux de famille de la France il y a fort longtemps. Tous les pays du monde que je connais font la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui a été bâti par les mains d'or a été revendu à du privé, comme ça. On s'en lave les mains. Tout le monde fait ça. L'Argentine n'a même plus rien qui lui appartient. À part son drapeau, et encore.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
C'est l'heure de retrouver Vincent Martini de l'hebdomadaire Le 1. Vincent Martini qui est professeur de sciences politiques. Il publie chaque samedi sur l'application de l'hebdo Le 1 une chronique intitulée « Jeu de pouvoir ». Il nous en donne un avant-goût tous les vendredis soirs. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors ce soir vous allez nous parler de l'union de la gauche. alors que le vote pour la primaire populaire a débuté hier et qu'il se conclut dimanche.
Et oui, Claire, une primaire populaire qui a peu de chances, on le sait, d'aboutir à une union de la gauche derrière une candidature unique, puisque Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo affichent leur hostilité à cette procédure. Une union de la gauche qui est pourtant un mantra de cette famille politique depuis la première élection présidentielle au suffrage universel en 1965. Et une union de la gauche qui est même devenue, dans un contexte d'effondrement du vote de gauche en 2017, l'alpha et l'oméga de toute possibilité de victoire.
La période n'a pourtant jamais été aussi favorable.
En effet, il est loin le temps des grandes divisions idéologiques entre socialistes et communistes. Les principaux candidats de gauche n'ont jamais eu autant de points d'accord sur la plupart des sujets, tout comme leurs électeurs d'ailleurs, qui se retrouvent sur un projet social écologiste devenu consensuel.
Alors comment expliquer ce qui semble devoir être un échec annoncé ?
On pourra toujours mettre cette faillite sur le compte du narcissisme des petites différences ou sur les égos des chefs de parti, et l'on n'aura pas entièrement tort. Mais de manière plus fondamentale, c'est la faiblesse structurelle des partis politiques qui est en cause et qui les maintient divisés. Pour survivre, ils sont poussés à refuser toute union et se transforment en véritable verrou démocratique. Je m'explique. Intellectuellement fossilisés, désertés par les militants, appauvris financièrement par les défaites successives, les partis comptent sur la campagne présidentielle pour se refaire et éviter de disparaître. C'est la nature de notre système présidentiel que de voir les résultats de cette élection réorganiser les rapports de force entre formations politiques. En d'autres termes, sans candidat, comment peser dans l'avenir ? Dans ce contexte, les partis craignent l'incursion des citoyens ordinaires dans un jeu certes délabré, mais dont ils tirent encore les ficelles. Et ils n'entendent pas accepter une stratégie d'union par la base qui puisse les déborder. À cela s'ajoute une dernière raison qui explique cette union impossible. Aucun des partis n'a abandonné le fantasme hégémonique qui a structuré l'union de la gauche dans le passé.
Que voulez-vous dire ?
Dans les années 70, l'alliance s'est en effet toujours organisée autour d'un parti dominant, en l'occurrence le Parti Socialiste. Mais le PS s'étant effondré en 2017, les Verts et la France Insoumise fantasment sur cette position, pensant qu'il suffira d'être en tête au premier tour pour devenir le leader naturel du camp de la gauche. Mais ce que ces leaders n'ont pas compris, c'est qu'aucune des forces politiques en présence n'est à l'heure actuelle en mesure de prendre la direction d'une coalition. Et la raison est la suivante, la gauche n'a pas fini sa recomposition intellectuelle et aucun récit politique concret, porteur d'un projet d'avenir partagé, n'est encore venu remplacer le communisme et la social-démocratie ensevelis sous les décombres du XXe siècle. Alors, en attendant qu'ils sachent pourquoi et non pas seulement pour qui se mobiliser, le peuple de gauche oscille entre consternation, fatalisme et tentation d'abstention. À 72 jours du premier tour de l'élection présidentielle, c'est peu dire que la maison de la gauche brûle et que tout le monde, ou presque, regarde ailleurs.
Vincent Martini, un grand merci. On vous lit demain dans l'Hebdo, sur l'application numérique de l'Hebdo, le 1. Bernard Lavillier, vous écoutiez avec attention. Qu'est-ce que ça vous inspire,
cette gauche dispersée ? J'écoute avec attention l'analyse d'un spécialiste qui enseigne l'art politique, je dirais un peu, qui peut faire une analyse politique avec une grille de lecture, normalement, c'est comme ça, et faire la synthèse. Voilà, c'est ça l'analyse politique. Et justement, c'était très juste ce qu'il dit. Il y a une histoire d'ego aussi, c'est vrai. Et c'est quelque chose de pas fini. Un rapport très distant avec le réel. Donc effectivement, il est possible que par vengeance ou par ignorance, les gens se mettent à voter des trucs bizarres ou qu'ils votent plus. Le plus grave, c'est ça, qu'ils ne votent plus. C'est-à-dire, moi, s'il me permet parfois et très longtemps de ne pas voter, c'est-à-dire que je suis voté avec mes chansons, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce que je vais mettre un bulletin dans l'urne que ça va changer grand-chose. J'ai passé beaucoup de temps à écrire, de la poésie. D'ailleurs, j'entends pas beaucoup parler de culture dans la campagne électorale, en tout cas pour l'instant. Du tout.
Peut-être que ça viendra, oui, Vincent.
Oui, c'est le sujet d'un prochain billet. Pourquoi les artistes ne pèsent plus dans les campagnes politiques présidentielles ?
Et pourquoi on parle plus
Et pourquoi on parle plus de culture ? Mais c'est lié, non ?
Eh bien, c'est lié, d'accord. Mais ils pèsent plus. Moi, je peux peser dans... Attendez, c'est pas si simple d'adhérer dans un projet où on va vous manipuler, où on n'en savait rien. Il faut rester un peu lointain. Sinon... Moi, je suis pas au garde-à-vous devant un chef de parti. Ils me font plutôt marrer. On dirait des chanteurs de variété, parfois. Donc, pas plus intelligent que moi, non plus. Donc, je pèserai, mais à ma manière, avec la distance et beaucoup d'ironie, parce que on rigole plus des masses, je veux dire, pour l'instant. L'heure est grave, comme disait. Alors, je dirais, mieux vaut jeûner avec les aigles que picorer avec les poulets.
Vous êtes, on l'a dit, Bernard Lavillier, un grand voyageur devant l'éternel. Quand vous revenez en France, quel regard vous avez, quel regard vous portez sur notre pays, le regard de quelqu'un qui revient d'ailleurs ?
C'est-à-dire que c'est complètement différent, là. Mais je suis pas dans ce genre-là, vengeur, qui dit « si vous saviez comment ça se passe à l'extérieur, vous seriez bien content d'être ici ». Bon, facile. Non, je reviens à France avec plaisir. Qu'est-ce que vous croyez, bien sûr.
Je vous demande ça parce que, par exemple, on sait que l'écrivain Sylvain Tesson, il nous dit c'est la France, c'est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Il n'y a pas un côté comme ça, quand même?
Il a quelque chose comme ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Mais il a dit quelque chose de beaucoup plus intéressant, Sylvain Tesson. Il a dit « Il y a ceux qui voulaient rentrer dans l'histoire, nous voulions nous perdre dans la géographie. » Vous voyez? C'est mieux, je trouve.
Voilà. En tout cas, on va voir comment, pour vous, tout a commencé. Pour ça, direction Saint-Étienne, Je tiens d'elle, c'est un des titres phares de l'album, il est dans la playlist de France Inter.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qu'on passe souffert. Je suis noire, je suis belle, je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe, pour secouer les grilles de l'avenir branlant, brûlant comme une torche que n'éteint pas le vent, j'ai franchi l'océan. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui va souffrir. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Il faudra que je parte. Le tramway du désir à 5h du matin. Les paupières mi-closes, la musique sur pause, les mains calaminées et les rêves en sursis. La guitare, si lointaine, me parle de pays, d'Amazon en cavale et de femmes fatales. Il fallait que je parte.
Je crache mes poèmes, je crache mes premières cigarettes. Je gueule dans l'usine morte, les entrailles ouvertes. Milliers d'arpèges dans le garage, chasseur d'orage à vélo. L'aventure c'était les fruits volés, les plans d'eau. Si mon cœur est bizarre, c'est peut-être que mon accent est bizarre. Tous les mots que j'écris jaillissent de ma terre noire. J'ai tordu la vie pour elle, dans ses forges imaginaires. Je suis pas un marin, mais j'ai pris la mer.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui va souffrir. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Ma première guitare, ma petite espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche a tant souffert sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Elle m'attend quelque part. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fier, plus fier que celle qui va souffrir. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne.
Je tiens d'elle, c'est évidemment un titre de du dernier album de Bernard Lavilliers, Sous un soleil énorme, dans la playlist de France Inter. Je tiens d'elle, choix musical de Djoubac.
France Inter, le 18-20, Claire Servajan.
Une semaine en France avec le plus stéphanois des chanteurs baroudeurs. Alors évidemment, cette chanson, elle est fondamentale, Bernard Lavilliers, Retour à Saint-Étienne, c'est avec le duo Terre Noire.
Oui, mais c'est grâce à eux que j'y suis retourné.
De Stéphanois
qui De Stéphanois de Terre-Noire,
voilà, qui est du quartier
où il y avait des mines et des forges, exactement. Oui. Dans cette ville, quand ils disent, parce que moi j'ai écrit une partie du texte, on s'est un peu réparti, hein, ils disent « plus frère que fier ». Ouais.
Beaucoup de nostalgie aussi dans cette chanson, parce que quand même, ma première guitare, ma petite espagnole, c'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part... Votre maman était mélomane, Bernard Lavilliers, pianiste, ouais. Institutrice, c'est elle, je crois bien, qui vous a donné le goût de la poésie.
Et de la musique, comme mon père d'ailleurs, je veux dire. C'était... Elle adorait Brahms, par exemple, hein. J'aimais bien Satie aussi, et puis d'autres choses. Mon père adorait l'opéra et le jazz. Et alors, ils écoutaient quand même des chansons aussi, des chansons très belles d'ailleurs. Donc tout ça, j'ai baigné quand même dans très peu d'argent, mais beaucoup, beaucoup de poésie et de musique.
Votre papa était syndicaliste à la Manu, la manufacture des armes, où vous avez donc travaillé très jeune.
À 16 ans. Oui.
Voilà, c'est votre père qui vous a dit au boulot, parce que je crois que
il m'a conseillé.
Vous étiez
plutôt
un petit peu sur une pente
d'aller
descendante.
Là, oui, mais il va plutôt à l'usine qu'en prison, c'est mieux.
Voilà.
Donc, il avait raison finalement.
Toujours est-il que ça vous a donné ensuite des envies de liberté. C'est pour ça que vous êtes parti très jeune au Brésil, liberté, grands espaces. Vous avez tout fait là-bas, des tas de métiers. Mais finalement, c'est la chanson qui vous a rattrapé. Alors, on a retrouvé une émission du 31 juillet 1968 à laquelle vous aviez participé.
Ah bon ?
Oui, Rendez-vous avec la chance à Lyon. Vous faisiez partie des 13 concurrents de la région Rhône-Alpes, sélectionnés par René Petit. Pour cette émission de Bernard Frangin, on écoute.
Bernard Lavilliers, la bonne bouche de l'émission, c'est sur un air qu'il a composé et des paroles qu'il a écrites lui-même qu'il va vous remercier, vous Mick Michel et vous Yves Montand, d'avoir accepté de retrouver en leur compagnie ce que vous étiez avant de devenir ce que vous êtes.
Connaissez-vous le marché blanc ? Ça se passe dans les bonnes familles. Là où l'on vend les jeunes filles, elles se trouveront un amant. On fait un voyage à Cythère avec son homme mari d'affaires. On rêve un grand gitan blond, descendant de Christophe Colomb.
Voilà, extrait de ce programme d'Intervariété, ça.
J'ai dû faire
ça
à un moment donné, oui, parce que je chante un peu comme Jean Ferrat là-dedans.
Oui, absolument.
Et alors, je ne savais pas me servir d'un micro, il faut déjà savoir ça. Parce qu'après, quand j'ai gagné un peu ma vie à un moment donné avec ma guitare, je chantais dans les restos ou les cabarets, il n'y a pas de micro. Hein. Donc on est obligé de porter la voix. Le savent très bien les comédiens qui n'ont pas toujours de micro au théâtre, ils sont obligés de travailler la voix pour qu'elle porte jusqu'au bout. Comme les chanteuses d'opéra ou les chanteurs d'opéra, d'ailleurs. Enfin, moi, je ne suis pas un chanteur d'opéra, mais je chantais comme ça.
C'est-à-dire... Voilà, mais c'était moins rock qu'aujourd'hui. Alors, à propos de la voix, Bernard Lavilliers, c'est vrai que on entend déjà cette voix magnifique de baryton, mais on a appris que quand vous étiez enfant, vous avez souffert des poumons. C'est quoi, une pneumonie? Vous étiez poitrinaire, comme on disait à l'époque. On vous envoyait en séjour à la montagne. On a du mal à le croire quand on entend votre voix aujourd'hui. On se dit,
j'ai pu échapper à l'école grâce à ça, d'ailleurs. En faisant un peu plus de cinéma. C'est ma mère qui m'a appris à lire. Donc, j'ai pu échapper un peu. Je suis un mec qui n'aime pas tellement les contraintes, vous voyez.
On a cru comprendre.
Donc, finalement... Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas voulu m'envoyer en Sana. Ils se sont déplacés, parce que Saint-Étienne était très, très pollué. C'est une cuvette, hein. Et le médecin leur a dit, si vous allez à 20 km, il va se porter beaucoup mieux. Ce qui s'est produit, tout simplement, on était écolo avant l'heure, ça m'a soigné sans médicaments.
En tout cas, cette voix, elle n'a pas du tout vieilli. Elle ne vous a jamais trahi ? Comment vous faites pour l'entretenir ? C'est quoi le secret ?
Rien.
On ne peut pas dire que, si, je ne sais pas, il y a une hygiène de vie irréprochable qui fait que...
Non, j'ai appris à chauffer ma voix comme un sportif. Un mec qui court le 100 mètres, il doit intérêt à se chauffer pendant... Sinon, il claque. Donc c'est vrai qu'avant les concerts, je me chauffe la voix pour pouvoir tenir 2 heures. Mais c'est très important, il faut une bonne demi-heure pour avoir les cordes, que tout ça circule. Parce que si vous attaquez direct, il y a des gens qui peuvent, hein, mais en général, c'est dangereux. N'importe quel... Moi, j'ai appris à recycler ma voix avec Madame Charlot, habitée dans le 18e. Tout le monde y est passé chez Madame Charlot. Tous mes potes, là, Julien Clerc, Nicoletta, elle avait un piano, elle habite au 7e étage dans le 18e, et moi, elle me faisait faire « Lili, Lili, Lili ». J'ai pourquoi ça ? Taisez-vous. Les.
Même à vous, elle a fait faire ça.
Oui, on changeait de tonalité. Ben ouais, mais ça le fait toujours. Alors je ferme ma porte de la loge pour personne rigole quand même, mais c'est indispensable. Hein.
Comme m'a dit Madame Charlot. Il y a eu un petit pépin de santé récemment, Bernard Lavilliers, un problème cardiaque. Il a fallu vous opérer. Vous avez eu peur ?
Non, pas du tout.
Il paraît que quand vous êtes réveillé, après l'opération, vous avez voulu écrire tout de suite.
Oui, absolument. C'est-à-dire que je me réveille dans une salle de réveil très sombre et je demande à une infirmière de m'amener une lampe et un bloc et un bic. Parce que j'avais envie d'écrire tout de suite.
Et vous parlez d'un tunnel blanc si confortable.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Ouais.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vous dit qu'il faut vraiment y aller, hein, vous êtes dans une sorte de tunnel blanc, c'est l'anesthésie, je dirais ça, mais même un peu après. Et finalement, on se dit, mais c'est pas mal la mort, quelque part. Il y a un truc, oui, il y a une tentation du voyage ultime, c'est-à-dire absolute travel. Hein. Et puis finalement, on est très content d'être en vie.
Voilà, ça, cette chanson s'appelle « Ailleurs ». Elle parle d'amour aussi, hein, comme souvent dans vos chansons. J'en reviens à cette tournée qui va démarrer en février, Bernard Lavilliers, sur les conseils de Mme Charlot. Donc vous allez vous préparer comme vous nous avez raconté. Il y a beaucoup de dates. Il y en a certaines qui sont déjà complets. On va dire Bruxelles le 24 février, les 10 et 11 mars à Marseille, le 12 mars à Nice. Le 26 à Saint-Étienne, là, ça va forcément être un moment important.
Ah ben évidemment, comme chaque fois.
Chaque fois que vous allez à Saint-Étienne.
Je vais être avec les Terres Noires. On va chanter cette chanson, évidemment.
Et vous allez retourner voir...
J'ai plus personne, moi, là-bas. Hein. Mes parents sont morts. Et de toute façon, ils vivaient plus à Saint-Étienne. Ils vivaient sur les monts un peu avant l'Auvergne. Vous voyez, ils vivaient à Saint-Bonnet-le-Château, qui va vers la Haute-Loire. Donc, j'allais rarement à Saint-Étienne, parce que j'avais plus...
Et vous êtes retourné voir le lieu où il y avait la fameuse manufacture des armes.
Bien sûr. Ah ben, ils l'ont pas abattu, c'est ça qui est bien. Ils en ont fait un centre international du design. Ce sont les mêmes ateliers où j'ai appris à être tourneur sur métaux, fraiseur, ajusteur, rectifieur, voilà. Et ils ont gardé les bâtiments, pas mal. Il y avait 10 000 ouvriers dans cette usine, hein. Imaginez-vous un peu. Il n'y en a plus 10 000 ouvriers. Où est-ce qu'il y a des usines où il y a 10 000 ouvriers maintenant ? Je sais pas.
En tout cas, c'est devenu un endroit effectivement très, très, très branché. Il vous reste encore des pays à découvrir, Bernard Lavilliers. Qu'est-ce qui reste ? L'Inde ?
Ouais, c'est ça.
Ça oui, fait l'Inde. Partie des projets.
Ouais, mais c'est-à-dire que là, c'est pareil. C'est un voyage dans l'espace, c'est un voyage dans la musique qui n'est pas du tout la même que la nôtre, loin de là. Donc, il y a quelque chose à apprendre. C'est pour ça que je me déplace.
Merci mille fois Bernard Lavilliers d'être venu ce soir sous un soleil énorme, c'est donc chez Universal, à consommer sans modération. Et puis cette tournée, je signale aussi que vous serez bientôt dans l'émission de Daniel Fievé, le temps d'un bivouac, ce sera le samedi 12 février à 16h sur France Inter, aussi dans la chronique de Frédéric Pommier, bientôt dans le journal de 13h. On vous remercie mille fois d'être venu ce soir.
Merci beaucoup à vous, hein, un grand merci.